Plus de 500 000 manifestants dans tout le pays selon le gouvernement, plus d'un million selon les syndicats. Quel que soit le chiffre retenu, la mobilisation a été multipliée par 3 depuis la manifestation du 10 septembre et la colère sociale ne retombe pas, tandis que le Premier ministre Lecornu continue ses consultations, à la fois en vue de la formation d'un gouvernement et de la proposition d'un budget. Jusqu'ici, les oppositions décisives pour la censure, le Parti socialiste et le Rassemblement national, ne paraissent pas convaincus par ces rencontres et tirent à U et à Dia sur les demandes de modification. De nouvelles journées d'action se profilent encore, notamment celle des agriculteurs le 26 septembre prochain. En toile de fond médiatique monte l'appel à la mise en place de la taxe Zucman, qui paraît rencontrer une très large approbation au sein de la population française d'après les sondages. À quel genre de bouleversements économiques et sociaux devons-nous nous préparer ? Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 18 septembre 2025, il est 21h49. Nous sommes en présence de notre cher Léo Portal. Comment vas-tu mon cher Léo ?
Fatigué, j'ai couru comme tu sais pour lancer l'émission, là le retard est de ma faute,
voilà, donc ça va. Mais ta faute, mais c'est aussi grâce à toi que nous avons malgré tout une émission, donc on te remercie, on t'excuse de ce retard, et donc c'est grâce à ça qu'on a fait le live ce soir. C'est cependant le live hebdomadaire, du coup il n'y en aura pas demain a priori, sauf l'actualité énorme, et par conséquent il sera suivi du live privé des abonnés, dans lequel nous répondrons aux questions des souscripteurs, ceux qui veulent poser des questions qui ne sont pas souscripteurs mais qui veulent y répondre, avoir la réponse dans ce live gratuit, peuvent poser la question. Nous priorisons naturellement les questions avec don. Et dans le cadre du live privé, je pense que notamment je ferai un petit débrief de mon passage chez Mathieu Boccoté et de certaines choses que j'ai un peu comprises finalement à Paris. C'est toujours un peu un voyage initiatique pour moi de monter à Paris et de redescendre. Ce soir, donc, alors on va partir sur alors débrief, franchement très vite fait parce que bon, pas grand chose à dire, il s'est rien passé d'extraordinaire. Comme je vous ai dit depuis un moment, moi je pense qu'on va vers une crise sociale qui va monter petit à petit. C'est visiblement ce qui est en train de se passer. On verra la semaine prochaine si ça se confirme, comment ça se confirme, vers quoi on va. Mais en soi, ça n'apporte pas véritablement d'éléments nouveaux. Donc au niveau du débrief, il n'y a pas grand-chose à faire. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes nouveautés. Je n'en ai pas vu dans le canal Telegram depuis tout à l'heure. Donc je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'insurrection, de choses comme ça. On est face à un mouvement qui monte un peu. D'après certains, il y a une chose qui m'a intéressé, apparemment, c'est ce qu'a dit Retailleau sur le fait que la mobilisation n'était pas très au-dessus que de la semaine dernière dans les grandes villes, mais qu'il y aurait eu un petit peu plus de mobilisation dans les petites villes. Ça, c'est ça qui est intéressant, parce que ça veut dire... Et c'est vrai que j'ai vu des images, notamment ben, pas très loin de chez moi, à Muret. J'ai habité à Muret pendant plusieurs années. C'est à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Toulouse. Et c'est une ville de 25 000 habitants. Et donc, c'est nettement plus petit, quoi. Et c'est déjà plus France périphérique. Même si c'est en proche banlieue de Toulouse, et il y a eu des manifestations impressionnantes là-bas. Donc effectivement, on sent qu'il y a une espèce de mouvement peut-être qui commence à toucher la France périphérique, on va voir comment ça évolue, mais clairement, alors est-ce que c'était l'idée que ça risquait d'être plus familial, etc., je ne sais pas, mais enfin, on voit, voilà. Alors c'est un peu tôt, à la deuxième manif, de dire si le mouvement s'installe dans la durée, mais on voit des appels aussi qui se multiplient sur le fait de prolonger ces manifestations par des choses qui pourraient ressembler pour certains à Nuit Debout, pour d'autres à l'occupation des ronds-points, avec l'idée de se rassembler sur les places de village, tout ça. Mais enfin, pour le coup, c'est quelque chose qui pourrait concerner la France périphérique. Donc, il me semble qu'on évolue vers ça. Sur la question institutionnelle pure, à savoir si on va aller vers une censure de le cornu, une dissolution, ça c'est trop tôt pour le dire. Hein. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en question. J'ai lu une théorie intéressante sur X, de comment il s'appelle, Clément Machi, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, son nom, le sondeur, dont son idée à lui, c'est que l'intérêt du Parti Socialiste, par exemple, ça pourrait être d'aller chercher la dissolution pour se lancer dans une élection sans LFI, histoire de se refaire une virginité hors extrême en vue de se redonner un sérieux en vue d'élection présidentielle 2027. Bon, ça, j'en sais rien, mais enfin, il y a ce genre de calculs probablement qui sont faits. Ça ne veut pas dire que c'est ceux qui vont triompher à la fin. Mais voilà, sur la séquence, je n'ai pas grand-chose de plus à dire, à part que pour moi, on reste sur les rails de ce qui doit se passer. Hein. Ce ne serait pas étonnant, encore une fois, que ça mette plusieurs mois, hein, 2, 3, 4 mois. Le Maïdan, il a fallu 3-4 mois avant que ça amène à la démission de Yanukovych. Donc on va voir si ça s'installe effectivement et si ça monte dans la durée. Ça sera très intéressant de l'observer. Ce qui m'intéresse plus ce soir, c'est la question de la montée de la taxe Zucman. Alors, je vais pas revenir en détail sur mon avis sur la taxe Zucman. J'ai assez dit ce que j'en pensais il y a une semaine dans un des lives spéciaux. À quel point, selon moi, ça pointe une distorsion dans l'égalité fiscale en raison d'un certain nombre de mécanismes qui se sont mis en place. Simplement, ça a entraîné beaucoup de débats dans la communauté, on va dire, notamment sur Telegram, sur la question de savoir si c'est juste ou si c'est pas juste, que c'est pas libéral, etc., que ça serait une catastrophe pour le pays, tout ça. Or, il y a un fait qui est assez indubitable, c'est qu'il y a un sondage qui est sorti. Alors, on peut toujours questionner les questions telles qu'elles ont été posées dans le sondage. La question qui a été posée, c'est aux gens, est-ce que vous seriez pour une taxe de 2% sur le patrimoine des gens qui ont plus de 5 millions d'euros ? Ce qui est le principe de la taxe Zucman, à quelques détails près. On ne dit pas aux gens, est-ce que vous êtes pour la taxe Zucman ? On leur pose cette question-là. Donc c'est moyen de sortir le truc du nom Zucman, parce qu'il y en a beaucoup sans doute qui répondraient oui non en fonction de Zucman. Et le fait est que les résultats sont considérablement pour. Hein. 95% chez LFI, 96% au PS. À mon avis, c'est une question de marge d'erreur. Je ne sais pas pourquoi LFI doivent penser que le taux est trop bas, je suppose. 89% ELV, 92% à Renaissance, au centre, donc 89% chez les sympathisants LR et 75% au RN. C'est intéressant que ce soit au RN qu'on trouve le moins de gens favorables à ceci. Ça peut être cohérent avec le fait qu'il y ait 46% des dirigeants d'entreprise qui sont désormais pour Rassemblement National UDR. Mais vraisemblablement, naturellement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que ça implique, mais ce n'est pas la question, je veux dire, de savoir, pas savoir ce que ça implique. On me pose la question aux gens de savoir s'ils sont pour ou contre. Et a priori, ils sont pour. Donc, a priori, si vous demandez aux gens s'ils sont d'accord pour taxer beaucoup plus fortement les gens vous disent que oui. Donc, ça a un sens sur les représentations que se fait la population. Ça a vraisemblablement un sens politique, parce que quand vous arrivez à ce genre de sondage, vous pouvez vous imaginer que ça risque d'arriver. Mais la question à laquelle je voudrais m'attacher, moi, fondamentalement, c'est en quoi ceci est précisément un élément pré-révolutionnaire, et un élément de la mentalité pré-révolutionnaire. Je vous avais fait une vidéo il y a quelque temps, ça devait être un an, elle est dans les essentiels, sur, alors je sais plus comment, on avait mis un titre très putaclic, c'était du genre apocalypse économique ou un truc comme ça. La réalité, c'est que si on avait mis un titre un peu chiant, ça aurait été les conséquences économiques des révolutions, au plan historionomique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à chaque fois dans chaque révolution. Bon. Et pas seulement les conséquences immédiates, parce qu'en général ça fait une grosse crise, hein. Souvent, je répète toujours à peu près les mêmes chiffres, parce que ce qu'on retrouve, c'est en général vous prenez moins 15% de PIB et une hyperinflation. Mais à plus long terme, c'était la question, au niveau redistribution, croissance, etc. Et l'émission était à ce sujet-là. Et à l'occasion de cette émission et d'un certain nombre d'autres, j'avais expliqué que quand on parle de révolution, on pense surtout aux institutions, à ce qui va changer justement dans les institutions, la distribution du pouvoir, le régime en fait. On pense beaucoup moins souvent aux transformations économiques et sociales, alors qu'elles sont en réalité les plus importantes. Le régime ne fait que suivre ces transformations et les entériner, et correspondre à la nouvelle infrastructure, si vous voulez, qui est mise en place. Et j'avais rappelé, dans ces circonstances-là, que c'est souvent, les révolutions procèdent à des redistributions, et notamment des redistributions du capital, en prenant le capital de la main de ceux qui bénéficiaient de l'ancien régime, et dont on estime en fait qu'au moins une partie de leur richesse était indue parce qu'elle venait des privilèges qu'ils avaient accumulés sous l'ancien régime. Et cette richesse est redistribuée et ça recrée des espaces d'action, si vous voulez. Et ça transforme le paysage des élites économiques parce qu'il y en a certaines qui sont spoliées, d'autres qui s'enrichissent considérablement, etc. Donc il y a des mutations très très importantes. Il y a des mutations aussi donc, au plan de l'ordonnancement économique, avec notamment des mutations fiscales, avec des fiscalités qui sont repensées. Et le meilleur exemple que je vais vous donner, que je vais vous rappeler rapidement, c'est l'exemple de la Révolution française. Mais avant d'y venir, je rappellerai aussi d'autres choses. Donc la taxe Zucman, ce que j'en ai dit, c'est que ça pointe notamment une distorsion, qui en fait est un privilège certes, c'est qu'à partir du moment où votre patrimoine dépasse un certain seuil, vous n'avez le niveau de vie que vous avez, votre train de vie en fait, vous le tirez de la valorisation de votre patrimoine, pas de vos revenus à proprement parler. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un revenu, vous tirez de la valorisation de votre patrimoine, notamment sous un mécanisme qui est de plus en plus connu, parce que Zucman en a beaucoup parlé, et il dit justement que c'est un des moyens pour les très riches d'éviter les impositions sur les revenus, qui est le crédit lombard. Pourquoi c'est un moyen d'éviter l'imposition sur les revenus? Parce que justement, vous n'avez pas de revenus. C'est-à-dire que vous ne réalisez pas le profit de valorisation, et vous les utilisez pour faire des prêts nantis avec lesquels vous consommez. Et qu'ensuite, vous faites rouler, ce qui fait qu'en fait, vous n'avez jamais à vendre. Et vu que la taxation des plus-values se fait au moment de la vente, si vous vendez jamais, vous ne payez jamais de taxes. Mais comme votre patrimoine se valorise, eh bien vous pouvez quand même avoir le niveau de vie qui en sort, si vous voulez. En faisant des prêts gagés, en fait, d'une certaine manière. Et le problème, c'est que dans un pays où vous avez une taxation sur les revenus qui monte très très haut, notamment sur les hauts revenus, ça finit par créer une distorsion, et notamment une distorsion très importante, entre les gens qui n'ont pas de patrimoine, mais qui arrivent à avoir un gros revenu, en travaillant beaucoup, en entreprenant, etc., et les gens qui ont un très très gros patrimoine, ce qui fait qu'ils n'ont qu'à trouver des moyens d'éviter d'avoir des revenus pour payer moins d'impôts proportionnellement que ceux qui travaillent énormément et qui paient de très gros impôts sur le revenu. Alors, je passe sur la question de savoir est-ce que c'est libéral de discuter là-dessus parce que la priorité, ça devrait être baisser la dépense publique, etc. On est d'accord, il n'y a aucun problème, j'ai aucun problème là-dessus, mais ce n'est pas la question. La question, c'est structurellement, vous vous trouvez en veille de révolution nationale avec une distorsion fiscale très importante entre des gens qui font partie véritablement de la classe des nantis établis, on va dire, qui, par définition, vu les niveaux de fortune où on est, sont généralement des fortunes hérité, surtout en France, parce qu'on utilise beaucoup l'exemple d'Arthur Mensch de Mistral AI pour comme exemple, mais les gens qui, comme ça, se font en une génération, même en une vie, même en quelques années, une fortune de pas de patrimoine à plus de 100 millions d'euros de patrimoine, c'est pas l'exemple type, si vous voulez, c'est pas la majorité du genre. C'est pas ça la majorité du genre. La majorité, c'est souvent des fortunes qui sont des fortunes héritées. Et qui dit fortune héritée, dans un régime en particulier comme celui de la Ve République, qui a un très haut niveau de dépenses publiques et un niveau très haut de capitalisme et connivence, ça veut dire que ce sont des fortunes qui, souvent, sur la durée, on peut estimer qu'elles ont fait une bonne partie de leur prospérité sur les relations avec les tels pouvoirs. Et donc forcément, quand vous arrivez à un système pré-révolutionnaire, vous êtes dans un système dans lequel vous avez des gens qui sont des nouveaux arrivants, on va dire, hein, des gens qui essaient de monter dans l'échelle sociale, qui ont de très gros revenus, parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait des études, ils sont dans des secteurs porteurs, etc., ce que vous voulez. Bon. Mais ils n'ont pas non plus créé une boîte qui va se valoriser à des... Donc, leur fortune, ils vont la tirer essentiellement de leur travail et de leur capacité d'épargne, si jamais ils en ont une. Et ces gens-là, on les sèche fiscalement. C'est très clair. Bon. Mais donc, vous vous retrouvez dans une situation où quelqu'un qui va travailler beaucoup comme ça et qui se fait sécher, et qui donc fait partie de l'élite, hein, parce que si vous êtes sur des gens qui ont plus de 100 000 euros de revenus par an, hein, ce qui est le dernier décile de taxation, dans le graphique que vous voyez, je ne sais pas si Léo peut vous le remettre, le graphique très connu de redistribution qui écrase, vous savez, l'écart de revenus en France, ceux qui se font taper dedans, c'est vraiment ceux qui ont les plus revenus. Donc, c'est des gens qui font... de toute façon partie de l'élite. Alors certains font déjà partie des gens, des familles qui ont des gros patrimoines, etc. Mais vous en avez aussi qui sont des nouveaux arrivants, hein, bon, et qui vont essayer de s'enrichir, sauf qu'en fait, vous avez un système qui leur interdit de s'enrichir. Vous leur interdit à peu près de s'enrichir. Pendant que vous en avez d'autres qui sont déjà riches, qui eux ont des moyens de continuer à s'enrichir de leur côté. Bon. Elle est là la distorsion, si vous voulez, d'accord ? Et c'est ce que je vous ai dit, c'est quand même, en tant que libéral, cette distorsion est un problème. Parce que le libéralisme, c'est censé être le régime dans lequel, qui est censé être le plus méritocratique, c'est-à-dire dans lequel les individus, sur la base de leurs efforts, sont capables de changer même leurs conditions. Ouais. Si vous vous retrouvez dans un système qui surtaxe les gens qui essaient d'essayer quelque chose alors qu'ils partent de pas grand-chose, mais que vous laissez échapper totalement à ce système de taxes, les gens qui sont déjà installés, vous êtes assez loin de l'idée morale, si vous voulez, fondamentale du système. Et assez typiquement, c'est le genre de choses qui apparaît en veille en fin d'ancien régime, ça, ce genre de choses. Si vous prenez l'ancien régime, le dernier ancien régime avant la Révolution française, vous aviez une bourgeoisie qui voulait continuer à monter, qui voulait s'enrichir, et qui se faisait essorer de taxes, et qui en face voyait l'ancienne noblesse, mais aussi une partie de la très haute bourgeoisie qui arrivait à se faire anoblir, hein, pas oublier ça, vous aviez toute une partie de la très haute bourgeoisie, comme elle parvenait à se faire anoblir en achetant des offices, etc., elle bénéficiait des privilèges, sauf qu'il n'y avait pas de privilèges, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas d'office pour tout le monde, donc si vous étiez à ce niveau-là de la bourgeoisie, ça allait, vous pouviez vous faire exempter de taxes, si vous étiez là, non. Si vous étiez là, à ce niveau de bourgeoisie, vous étiez au niveau de la noblesse. Si vous étiez là, non. Bon. Et ça, c'est typiquement le genre de distorsion qui n'était pas admissible au bout d'un moment pour les gens, parce que, si vous voulez, à partir du moment où le système de caste n'avait plus de réalité fondamentale comme au Moyen-Âge, vous disiez, il n'y a pas assez de différence de nature entre lui et moi pour que moi, je me fasse essorer et que lui, il ait pu acheter un office et éviter ça. Et s'il a pu acheter un office, c'est aussi parce qu'il est dans les réseaux, il est marié avec la cousine du duc de machin, etc. Donc on est, vous voyez, c'est question comme ça. Typiquement, c'est un régime. Hein. C'est-à-dire des liens avec les élites sédimentaires, etc. Et donc, il faut bien comprendre que derrière la taxe Zucman, pour moi, et c'est pour ça que les Français y sont aussi favorables, il y a ça. Alors, ça ne veut pas du tout dire, attention, que la taxe Zucman telle qu'elle est pensée permettrait de régler le problème. Et c'est sûr que dedans, il y aurait du déchet, encore une fois, parce que Arthur Mensch et d'autres pourraient se faire essorer, alors que pour le coup, eux, ils sont partis de rien. Oui. Donc, c'est pas la question de savoir si la taxe Zucman est en soi un outil efficace ou pas. C'est pas la question que je me pose. La question, c'est d'un point de vue historionomique, que nous dit la taxe Zucman et que nous dit sa soudaine montée dans le contexte qui est le nôtre de crise sociale en bord de révolution, qu'est-ce que ça nous dit ? Et bien selon moi, ça nous dit ça. On nous dit qu'on est en veille de révolution. Bon. Sauf que naturellement, quand vous avez deux idées d'économie et que vous savez que il faut pas non plus faire fuir l'activité, faire fuir les riches, faire fuir les entrepreneurs et les gens qui essaient de s'enrichir, vous vous dites que c'est pas forcément une bonne idée. Et forcément, si vous espérez de la révolution une libéralisation, vous vous dites on n'aura pas ça, on aura du communisme. Bon. Alors, avant de revenir sur cette question-là, de est-ce qu'on aura du communisme ou pas, petit rappel de ce qu'a donné pour vous donner une idée générale de ce qui peut se passer pendant une révolution. Petit rappel de ce qu'a donné la Révolution française. Alors d'abord, la première chose qu'il y a eu avec l'arrivée des États généraux, c'est la sacralisation de la dette. De la même manière que nous, on a dit non, on ne touche pas à la retraite par répartition, etc. sacralisation de la dette, on n'y touche pas, la dette elle sera payée, etc. On n'y touche pas. Deuxième chose qui est faite, la saisie des biens du clergé. Alors là, première étape pour essayer de redistribuer l'argent, en disant le clergé bénéficiait de la dîme, etc. On abolit la dîme, donc en gros, quelque part, les biens détenus par le clergé sont tendus, donc on les saisit. Il y aura aussi les biens des émigrés, c'est-à-dire les nobles qui seront partis, mais ça sera dans un contexte de guerre à partir de 1792. Donc c'est pas le début. Mais enfin, déjà, il y a ça. C'est-à-dire la captation d'un certain nombre de biens, qui étaient des biens privés, malgré tout, et qu'on décide de mettre au service du règlement de la dette et de la stabilisation des finances publiques. C'est ça l'idée, en fait, hein, au début de la Révolution. Les biens nationaux, c'est ça. Ensuite, il y a la libéralisation du système avec la destruction des anciennes corporations et donc la liberté d'entreprendre, en fait, hein, tout simplement, et la suppression de tous les corps intermédiaires. C'est-à-dire toutes les coalitions, les corporations, etc., les groupements d'intérêts professionnels, tout ça, c'est supprimé. Ça, c'est le décret d'Allard et la loi de Chapelier. Ça, c'est en juin 1791, donc déjà encore 2 ans après. Hein. Et avant ça et entre-temps, et au milieu et en filigrane de toute la Révolution, vous avez la réforme fiscale. La réforme fiscale, très important. La réforme fiscale, c'est une suppression de la totalité des taxes de l'Ancien Régime, des taxes et redevances, qui vont être remplacées par un nouveau système, entièrement. Donc, avec l'abolition des privilèges, vous avez notamment l'abolition, donc c'est la nuit du 4 août, hein, 1789, vous avez notamment l'abolition de la taille qui était l'impôt direct détesté, puisque c'était sur celui-là qu'il y avait énormément d'exemptions, notamment pour la noblesse. La noblesse était exemptée de taille. Et donc vous aviez ce problème de la bourgeoisie que j'ai évoqué juste avant, notamment de la moyenne bourgeoisie finalement qui était en train de monter, qui elle était essorée de taille, alors que la très haute bourgeoisie échappait à la taille en se faisant oublier. Hein. Alors, c'est la première qui est supprimée. Les autres, les aides, la gabelle, vous savez, c'était l'impôt sur le sel, grosso modo la TVA dans une économie primitive. Ça sera supprimé en avril 91, c'est-à-dire à peu près au même moment que le décret d'Allard et la loi de Chapelier, alors que la taille, elle est supprimée dès le début. Supprimée dès le début, et elle est remplacée en mars 1790 par la contribution foncière, qui, elle, est un impôt direct sur la propriété terrienne. Donc ça remplace la taille et les autres taxes féodales. Mais c'est tout le monde qui la paye, et c'est en fonction de la valeur des terres. Pour le coup, c'est assez géorgiste, d'ailleurs, comme première réforme de la Révolution. Vous savez que le géorgisme, c'est celui qui pense qu'il n'y a qu'une seule vraie taxe qui devrait être payée, c'est sur la seule chose qui est véritablement limitée, c'est-à-dire les surfaces habitables, la terre, quoi. C'est la land value tax, ça y est. Bon, je ne m'étends pas là-dessus. Le 1er décembre 1790, c'est l'instauration de la contribution mobilière, c'est-à-dire un impôt sur les revenus du travail et des biens mobiliers. Donc dès le début, c'est la contribution mobilière, c'est revenu du travail et revenu du capital. Il n'y a pas de distinction. Hein. À la Révolution, il n'y a pas sacralisation des revenus du capital. C'est les revenus qui sont imposés. Ouais. Et en septembre 1791, il y a l'adoption de la patente. Ça, c'est un impôt sur les activités commerciales et industrielles. C'est basé sur le revenu des professions, donc l'impôt sur les bénéfices, en fait. Hein. Voilà, donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. En 1793, il y aura un petit truc, c'est le truc le plus communiste au niveau fiscal, c'est l'emprunt forcé. C'est sous la Convention pour financer la guerre. C'est sur les plus riches à qui on emprunte de force. Voilà. En disant, on vous rendra, mais c'est... Voilà. Puis bon, après, on fera défaut, donc on ne le rendra pas. Mais bon, ce n'est pas le problème. Mais tout ça pour dire qu'au sortir de la Révolution, et ensuite en 1798, vous avez la dernière taxe qui est créée, la dernière des quatre vieilles, on appellera ça les quatre vieilles, qui seront pendant longtemps les quatre seules taxes en France, c'est-à-dire la contribution foncière, la contribution mobilière, la patente, bien professionnelle, et l'impôt sur les taxes et fenêtres, qui lui était un impôt sur la fortune. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une maison avec beaucoup de portes et beaucoup de fenêtres, ça veut dire que vous êtes très riche, donc vous payez une taxe particulière. Bon. Et ça restera en place pendant très longtemps. Donc vous voyez, on est sorti complètement du système fiscal d'Ancien Régime, on a créé tout un autre système, on a totalement changé la structure économique du pays en cassant tous les systèmes de corporations, de privilèges, etc. Donc ce sont des réformes extrêmement importantes. C'est beaucoup plus important tout ça, fondamentalement, que de savoir si on est dirigé par un roi ou par une république. Vous voyez, c'est vraiment mineur par rapport au reste qui va durer, en fait, et être la norme pendant une bonne partie du 19e siècle après. D'accord ? Donc c'est ça le genre de réforme qui peut se passer. Et si vous voulez vous mettre en tête d'autres types de réformes, hein, je renvoie à l'émission que j'avais fait, mais si vous pensez à la révolution de 1945, parce que ça en est une, eh bien, pensez à la mise en œuvre du programme national de la résistance avec la création de la sécurité sociale, etc. Hein, bon. Dont d'aucuns, et ça me servira de transition, pourraient dire « oui, mais du coup, c'était communiste. Parce que c'est parce que la Sécu, c'est communiste, naturellement, ce qui disait beaucoup de libéraux. » Alors, je dirais oui, mais ça n'a pas empêché qu'ensuite on a eu les Trente Glorieuses. Voilà. Et donc là, en fait, je voudrais... c'est pour ça que j'ai dit sur le Telegram qu'on allait partir peut-être un peu loin ce soir, parce que je voudrais discuter avec vous de choses... de vraiment discuter, en fait, hein, parce que je pense que ça va entraîner pas mal de discussions derrière. Mais pour moi, c'est vraiment du work in progress, si vous voulez. Et donc, je pense que c'est sujet à discussion. C'est des choses auxquelles je réfléchis depuis un moment. Et ça me paraît important d'y venir. Et je pense que c'est la bonne occasion pour revenir là-dessus. Parce que vous savez, moi, j'ai beaucoup changé d'avis dans ma vie. Hein. Je suis passé de ceci à cela, de idéologiquement, politiquement, j'ai beaucoup, beaucoup varié. Parce que j'ai un gros défaut, c'est qu'en général, quand je me lance dans un truc, et que je pense que j'ai enfin trouvé un système qui permet de comprendre les choses, j'ai tendance à le pousser jusqu'au bout, et à la fin, je m'aperçois qu'en fait, ben, non, ou ça ne marche pas, ou voilà. Je ne peux pas m'empêcher de voir les contradictions dans le truc à la fin. Et ça, c'est problématique. Et l'autre problème, c'est que, en grande partie, c'est aussi l'historionomie qui m'a amené à ça. Parce que vous apercevez que vous faites des comparaisons qui vous amènent, à la fin, à comprendre que, ben, en fait, ça marche pas comme ça. Et je m'aperçois que je suis face, depuis un moment, à des contradictions entre ce que l'historionomie nous montre et certaines idées préconçues qu'on peut avoir. Et qu'à un moment, il faut faire face à ces contradictions et se poser la question. Se poser la question de savoir si on était vraiment face à quelque chose de vrai, ou bien si, comme ça arrive souvent en science, on était face à un logiciel explicatif qui semblait cohérent, mais qui en fait était totalement faux, et vous vous en apercevez qu'une fois que vous avez un logiciel explicatif plus puissant. Et je pense que l'historionomie en tant que logiciel explicatif plus puissant de beaucoup de phénomènes historiques nous amène nécessairement à revoir et à abandonner un certain nombre de conceptions qu'on pouvait avoir. Et une des principales conceptions qu'on a, que je pense que vous avez tous, c'est l'URSS s'est effondrée parce qu'elle est communiste, parce qu'elle était communiste. C'est naturellement ce qu'on se dit. On y pense toujours. Et on se dit, 1991, c'est la victoire du capitalisme sur le communisme, évidemment. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Le problème, c'est que vous savez comme moi que c'est pas du tout ce que vous dit l'historionomie. Ce que vous dit l'historionomie, c'est que l'URSS s'est effondré parce que c'était un ancien régime. Et l'URSS s'est effondré exactement de la même manière que l'Empire russe s'était effondré en 1917, alors que l'Empire russe n'était pas communiste. Donc le problème, c'est pas le communisme, en fait. Et il y a d'autres choses qui sont un petit peu des signes de ça et qui, selon moi, posent des questions. Je suis pas en train de vous dire que le communisme, c'est bien, hein, pas du tout. Hein. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que je pense que l'effet strict du communisme est historiquement marginal par rapport à des phénomènes qui sont beaucoup plus fondamentaux, d'une part, et d'autre part, qu'en fait, tout simplement, le communisme ne s'est implémenté que dans des régimes qui étaient structurellement favorables à la mise en place de ce qu'on a appelé les dictatures communistes. Et qu'il ne s'est pas passé un truc tout d'un coup qui a fait en gros qu'en Russie au XXe siècle, vous avez une espèce de virus intellectuel communiste qui est apparu, les gens sont devenus communistes, ils ont mis en place un régime communiste. Non, en réalité, comme vous le savez, que je le répète souvent, l'idéologie n'a pratiquement aucun effet dans l'histoire humaine. Elle vient se calquer et habiller des fondamentaux qui sont beaucoup plus réguliers, en fait, tout simplement. Et très clairement, je vous ai déjà décrit à maintes reprises l'URSS comme une sorte d'ancien régime, et de nouvel ancien régime avec les mêmes tares qu'il y avait dans l'ancien régime, en fait. Et il y a d'autres choses qui vous permettent d'indiquer ça. Si vous regardez l'économie de l'URSS, dans les années 50, elle avait une croissance de 5 à 6% par an. Elle a ralenti dans les années 60 de 4 à 5%, et dans les années 70 de 2 à 3%. Il faut savoir qu'aux États-Unis, à la même époque, qui était capitaliste, la croissance était de 4% par an en 1950, 4,5% dans les années 60, et elle monte à 2 à 3% dans les années 70. Donc elle était au même niveau que... À partir de 1980, vous avez l'URSS qui plonge au niveau de la croissance, alors que les États-Unis continuent à grimper. Il reste à 3 et 4% dans les années 80-90, alors que l'URSS descend à 1,5, et puis ensuite, dans les années 90, c'est l'effondrement complet. Mais ça, c'est plus une question de régime qu'autre chose. Il y a autre donnée qui est intéressante. L'Empire russe en 1900 avait un PIB, alors tout ça c'est des choses qui ont été recalculées par des historiens en dollars internationaux, donc dette d'inflation des deux côtés, c'est une manière d'universaliser les données, et bien sûr en corrigeant les statistiques soviétiques, quand c'est les statistiques soviétiques. Hein. Donc ça permet d'avoir une idée de l'évolution économique qui est intéressante. En 1900, donc sous l'Empire russe, le PIB par habitant russe était de 1307 dollars internationaux. Alors, c'est base 2011 que ça se calcule, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur, en fait. 1307 dollars internationaux. Aux États-Unis, c'était 4091 dollars internationaux. Donc, c'était trois fois plus. D'accord ? En 1980, le PIB par habitant de l'URSS était d'environ 6500 dollars internationaux, 6500, 6600. Aux États-Unis, c'était 18500. Donc, c'était à peu près trois fois plus aux États-Unis qu'en URSS. Et c'était déjà trois fois plus aux États-Unis qu'en URSS en 1900, c'est-à-dire avant le communisme. Et si vous regardez la croissance, vous apercevez que le PIB par habitant en Russie, entre 1900 et 1980, a été multiplié par un peu plus de 4, et qu'aux États-Unis, entre 1900 et 1980, le PIB par habitant a été multiplié par un peu plus de 4. Pour un pays qui a passé les trois quarts du temps sous le communisme et l'autre qui était régime capitaliste, ça pose question. On se demande, est-ce que les types en URSS étaient pauvres parce qu'ils étaient communistes? Ou est-ce qu'ils étaient pauvres parce qu'ils ont commencé leur révolution industrielle 50 ans plus tard? Parce que la révolution industrielle aux États-Unis, elle commence en 1790, même moment qu'à peine un peu de retard sur l'Angleterre, puisqu'il y avait une communication directe, il n'y avait pas de souci. En Russie, ça commence timidement entre 1830 et 1850. Donc vous avez 50 ans de retard à la base. Donc la réalité, en fait, c'est que la Russie a 50 ans de retard économique sur les États-Unis depuis la fin du XVIIIe siècle. Et si vous regardez la vitesse de diffusion de la révolution industrielle, hein, je crois que Léo, vous avez partagé cette carte il n'y a pas longtemps, tu l'as peut-être toujours en batterie, Léo, la carte de diffusion de la révolution industrielle en Europe. Vous apercevez qu'en fait, le truc, c'est que la révolution industrielle, dans toute l'Europe orientale, qui a été en retard pendant l'essentiel du XXe siècle, de toute façon, elle était en retard dans la révolution industrielle. Donc, c'est assez peu sûr que ce soit véritablement un problème de communisme, le retard de l'Europe orientale. Surtout quand vous pensez qu'une partie du décollage de l'Europe orientale depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui est notamment due au fait que l'Europe occidentale a balancé des monstruosités de pognon en Europe orientale, notamment à travers l'UE. On balance du pognon en Hongrie, en Pologne, etc. Dans tous ces pays-là, qu'on a voulu sortir du communisme, on les a sortis de la pauvreté, surtout en balançant des flots de pognon. C'est aussi pour ça. Donc, si vous regardez, si vous dites oui, mais depuis 1990, ils se sont développés vachement vite, oui, sans doute, la liberté économique et l'intégration au marché y a fait énormément. Ce qui y a fait aussi, c'est qu'on y a balancé du pognon. Mais la réalité, c'est qu'une bonne partie de cet espace-là, avant, s'il n'était pas développé, c'est essentiellement parce qu'il est pendant très longtemps resté en dehors de la révolution industrielle. D'accord ? Alors vous allez me dire, oui, mais à partir de 1990, tout se casse la gueule en URSS entre en phase de fin d'Ancien Régime. Et les phases de fin d'Ancien Régime, économiquement, c'est jamais trop terrible. C'est-à-dire que vous avez un système normatif qui est extrêmement angoissé, on va dire, qui étouffe l'économie. vous avez tout un tas de normes et de structures justement sociales de sédimentation qui se sont mis en place et qui étouffent la capacité industrielle de l'économie. Parce que les anciens régimes finissants ont tendance à être des économies de rente à tous les sens du terme. C'est-à-dire que dans lequel les gens qui ont réussi à entrer dans les classes supérieures font tout pour empêcher les classes inférieures de les mettre en concurrence. Donc c'est un système qui est un système nécrosé, les systèmes d'anciens régimes. Et ce n'est pas une question de communisme ou pas de communisme. Hein. C'est une question de maturité, on va dire, historionomique, de la société que vous considérez. Et le fait est que si vous regardez l'économie de l'URSS pendant un moment, avec ce qui était un système de capitalisme d'État, c'est intéressant parce que capitalisme d'État, c'est souvent le nom qu'on donne aussi à ce qu'était l'économie française pendant la première moitié du 19e siècle. C'est-à-dire un système dans lequel vous avez une espèce de nomenclatura. C'était les gens qui avaient le droit de vote, puisque le suffrage était censitaire. C'était eux qui décidaient de gérer le pays. Et puis ensuite, vous avez le reste de la population qui était dessous, et dont le niveau de vie était vraiment pas terrible. Le niveau de vie de la population française, véritablement, commence à décoller à partir du Second Empire, et notamment avec la mise en place du libre-échange avec l'Angleterre, etc. Et à un moment où il y a une autre révolution nationale, d'ailleurs, si vous notez, hein, justement. Alors pourquoi je dis tout ça ? Pourquoi je dis tout ça ? Parce que ça correspond avec ce que je vous disais tout à l'heure, et une autre observation que j'ai fait longtemps aussi. Vous savez, je vous ai souvent expliqué que si vous regardez les effets immédiats de la révolution de 1917 et de la révolution de 1991, vous avez à peu près les mêmes conséquences économiques. C'est-à-dire que vous avez une récession terrible, vous avez des troubles internes, vous avez une hyperinflation. Alors que dans un cas, vous avez une révolution qui est communiste, et dans l'autre cas, vous avez une révolution capitaliste. C'est quand même bizarre. Mais c'est parce qu'en fait, l'important, ce n'est pas l'aspect idéologique qu'il y a au milieu de ça. Ce qui est important, c'est le fait que vous êtes face à un phénomène organique de révolution nationale, et que le phénomène organique de révolution nationale, il passe toujours par les mêmes étapes, il produit toujours les mêmes effets. Et l'idéologie, elle vient juste habiller des choses à ce moment-là. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le mouvement de transition lui-même. Et donc, là, au moment de savoir où est-ce que ça pourrait nous mener la taxe Zucman ou comment est-ce que ça va se passer, je pense qu'à partir du moment où on ne fait pas une analyse économique, on ne vient pas là réfléchir avec des idées, on ne cherche pas à faire une interprétation libérale de ce qu'est la RN, on cherche à faire une interprétation historionomique de ce qu'est la RN. Voilà. Sans douter sur le fait que, effectivement, le libéralisme est moralement plus souhaitable et sans doute plus efficace au niveau de la distribution de la richesse, mais précisément. Ce qui caractérise une société de fin d'ancien régime, en général, c'est qu'elle est très peu libérale, justement parce que, je vous disais, elle est engoncée par des normes, des traditions, des coutumes, des corporations, enfin, tout ce que vous voulez, tout un tas de choses qui se sont accumulées, qui ont stratifié parce que vous avez eu un régime stable et relativement autoritaire pendant des décennies, et qui ont fait que vous avez un système complexe qui s'est mis en place comme ça, où tout le monde vit aux dépens de tout le monde d'une certaine manière, chacun a des privilèges, des avantages qui sont censés composer le fait que par ailleurs il paye, etc. Et ce qui se passe au moment des révolutions en général, c'est que vous cassez tout ça. Et en soi, le fait de casser tout ça, c'est libéral. Que vous le fassiez au nom du libéralisme ou au nom d'autre chose. Ce qui est important, c'est que vous arrivez et vous cassez tout ça. Et vous mettez les gens dans une situation dans laquelle ce qui compte, c'est assez peu ce dont ils ont hérité, c'est assez peu leur statut dans une corporation, le réseau, etc., puisque vous cassez tous ces trucs-là. Et pour le coup, vous mettez les gens face à leurs nécessités avec une liberté d'action. Et donc, si vous voulez, il y a un libéralisme factuel, si vous voulez, dans ces moments-là. C'est-à-dire que les gens peuvent enfin se mettre à agir et peuvent travailler, bouger, s'activer. Et ça, c'est peut-être pas du libéralisme forcément au moment où ça se fait, d'autant plus que, comme je l'ai déjà eu dit, le libéralisme, souvent, et c'est en particulier qu'en France, je trouve assez normal, je vous en ai parlé l'autre jour d'ailleurs, je vous ai dit le problème du libéralisme en France, c'est que c'est devenu un truc de vieux bourgeois qui veut pas qu'on lui fasse, qu'on lui prenne son argent avec des impôts. C'est ça le truc. Hein. C'est plutôt à ça que ça s'adresse. Maintenant, vous avez des changements, je vous l'ai dit, avec des influenceurs qui viennent expliquer en gros aux gens des classes populaires qu'on les empêche d'investir et que et si jamais ils essaient d'entreprendre, ils vont se faire essorer. Là, on retrouve un libéralisme absolu, on va dire, si tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut éviter qu'il y ait trop d'impôts. Bon. Mais si vous êtes juste sur un libéralisme de bourgeoisie de droite, c'est pas vraiment du libéralisme. Hein. C'est parce que c'est pas le même intérêt économique que ça défend, vous voyez. Et au fond, malgré tout, chacun défend toujours essentiellement son intérêt économique. Hein. Faut pas avoir d'illusions là-dessus. Et donc forcément, si vous vous retrouvez à la veille d'une révolution, l'idée de tout casser et de changer les règles du jeu, à qui est-ce que ça ne plaît pas? Mais ça plaît à ceux qui ont appris à jouer avec les règles du jeu. Parce que ce qui caractérise un régime qui vieillit, c'est quoi, principalement? C'est une considérable distorsion dans la capacité d'évitement des règles. Le vrai libéralisme, c'est le fait que les mêmes règles s'appliquent à tout le monde. D'accord ? Un régime qui vieillit longtemps, et qu'il s'affirme libéral ou pas, selon moi, de toute façon, voit se produire la chose suivante. C'est que vous avez des gens qui sont les élites, les gens qui sont proches du pouvoir, les gens qui ont la richesse, les gens qui gouvernent, qui forment naturellement un groupe de tête qui se détache progressivement du reste et qui devient en particulier maître dans la capacité d'évitement. Et la capacité d'évitement, typiquement, c'est ce qu'on appelle les privilèges. Sous l'Ancien Régime, c'était ça, les privilèges, c'était les gens qui, par les règles mêmes, évitent d'être soumis aux mêmes règles que la plupart des gens. Un privilège, c'est ça. Et un privilège, c'est ce qui vous, c'est ce qui s'accumule autour toujours des mêmes, naturellement, parce que les gens qui ont une capacité d'évitement accumulent grâce à ça de la richesse et du pouvoir, qui leur permet à nouveau d'influer sur le régime et donc d'obtenir plus de capacité d'évitement. C'est comme ça que vous pouvez avoir une accumulation, pas tellement forcément une accumulation de richesse, mais une accumulation de privilèges, à la fin, qui crée une grosse distorsion interne. Et donc, une inégalité légale, en fait. Voilà. Ou fiscale, ce que vous voulez. Enfin, une inégalité devant la loi, en fait. Le fait que tout le monde n'est pas traité pareil. C'est ça, le principal problème. C'est pas une inégalité de richesse. Souvent, les gens interprètent ça comme une inégalité de richesse. La réalité, c'est que le problème, c'est que... et d'ailleurs, c'est souvent, à mon avis, une erreur d'analyse qu'on fait. Le problème, c'est que c'est les riches, c'est pas une question de riches, c'est de savoir qui bénéficie de capacité d'évitement dans le système, ou qui bénéficie du système en général, par rapport à ceux qui n'en bénéficient pas. Et quand vous arrivez à une fin d'ancien régime, dans la fin d'ancien régime, c'est ça, c'est vous avez une accumulation de ça, et vous avez une distorsion, enfin, c'est ça entre autres choses, hein, mais au plan économique, on va dire, c'est ça, c'est que vous avez une situation dans laquelle vous avez les gens qui sont proches du pouvoir et qui sont installés dans le système et les réseaux de pouvoir qui échappent aux obligations du vulgum pecus, et le vulgum pecus commence à avoir ras-le-bol, surtout que ça lui coûte de plus en plus cher, parce que le système est de plus en plus coûteux. Et ça, vous savez, c'est assez typique, c'est de ce que je disais ça tout à l'heure, c'est un peu comme, vous savez, les règles, il y a toujours des gens qui sont très doués pour jouer avec les règles, pour pinailler, pour dire, et pour avoir toujours raison, vous savez. Il y a deux types de gens, quand vous jouez à des jeux qui jouent et qui gagnent. Vous avez ceux qui sont très bons pour jouer le jeu, et vous avez ceux qui sont très bons pour jouer les règles. Alors ceux qui sont très bons pour jouer le jeu, ils vous battent, c'est énervant. Ceux qui sont très bons pour jouer les règles, ceux-là, vous avez juste envie d'une chose, c'est de leur balancer le jeu par la figure, parce qu'ils ne jouent pas le jeu, mais ils jouent les règles. Emmanuel Macron a énormément joué les règles de la Ve République, depuis le début de son mandat. On en a déjà parlé, vous savez, où il a utilisé à peu près tous les articles de la Constitution qu'il pouvait pour faire passer des trucs, forcer les machins, et vous avez envie de dire, mais le mec triche. Non, il ne triche pas, il joue les règles. Okay, ce qui est un petit peu différent. C'est le délinquant qui triche. L'élite joue les règles. Et quand vous êtes dans une fin d'ancien régime, vous avez beaucoup de gens qui jouent les règles, et parce qu'ils ont appris à jouer les règles, et qu'il y a aussi des moyens d'entrer dans le club qui joue les règles. Hein. Vous pouvez avoir des seuils de richesse, vous pouvez avoir des seuils d'appartenance à des institutions, etc., qui vous garantissent de ça. Telle profession, par exemple, qui vous donnera lieu à tels abattements fiscaux, etc., etc. Et ça, c'est une fin dans ces régimes. Et l'intérêt d'une révolution, c'est qu'elle casse ça. Voilà. C'est que vous avez des gens qui vont dire, bon, on supprime, on arrête avec les privilèges, on supprime, et on retrouve des règles qui s'appliquent à tout le monde. Et typiquement, ce que je vous ai réexpliqué sur ce qui s'est passé pendant la Révolution française, c'est ça. C'est-à-dire, vous détruisez toutes les corporations, d'accord, qui permettaient à des professions de gérer leurs précarés, etc. Vous détruisez tout ça. De telle manière que ce qui soit efficace économiquement, ce qui soit récompensé économiquement, c'est l'efficacité de l'entrepreneur et pas l'appartenance à la corporation et la maîtrise de ses règles. Quand votre succès économique dépend de la maîtrise des règles, du réseau des institutions, bref, de ce que dans en bon français on appelle la corruption habituellement, quand votre succès dépend de la maîtrise des règles et pas de l'efficacité économique, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans un régime libéral. Et vous ne pouvez pas dire, je pense, que ce qui amène à sortir d'un système comme ça n'est pas fondamentalement une mesure libérale. Alors, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, je ne suis pas en train de défendre la taxe Zucman en soi. Hein. Je dis que, en tout cas, la taxe Zucman prospère sur le désir d'une telle solution. C'est-à-dire sur le désir d'un système qui permet de mettre fin aux privilèges d'évitement qu'ont certains et qui se sont construits au fil des années. C'est comme ça que j'analyse ça, moi. Parce que l'idée, c'est que le vrai libéralisme, c'est quand vous avez tout cassé, les normes, les corporations, les systèmes de réseau, etc., voire que vous les interdisez, parce que c'est ce qu'avait fait la Révolution, quand même. Elle avait interdit la mise en place de réseaux professionnels. Là, vous vous trouvez temporairement dans un système de vrai libéralisme, où chacun entreprend, et c'est purement votre efficacité sur le marché qui va dicter votre sort économique. Bon, ça n'a pas duré, naturellement. Il y a assez rapidement des blocs de règles qui se sont remis en place, mais ça a quand même donner un espace. Et en général, selon moi, c'est ce qui vous explique qu'en sortie de révolution nationale, vous avez un boom économique. C'est-à-dire vous avez une période de forte croissance de quelques décennies. Typiquement, les Trente Glorieuses, au sortir de la dernière fois, mais même, c'était sous la Troisième République, la Belle Époque, etc. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est ces périodes-là. Et pourtant, ça peut être à la suite de révolutions qui vous donnent l'impression qu'elles ne sont pas si libérales que ça. Et je reprends l'exemple encore une fois de 1945, effectivement. Si vous prenez 1945, ça va être l'accroissement du poids de l'État dans l'économie, ça va être la mise en place de la sécurité sociale, donc la nationalisation d'un certain nombre de caisses de secours mutuelles, etc. Donc c'est quelque système qui peut paraître moins libéral, mais qui en même temps, ça vous donne les Trente Glorieuses, encore une fois. Parce que je pense que ce que vous... Alors, pour le coup, encore une fois, je vous dis, c'est work in progress, donc je réfléchis en même temps que je vous parle. Je pense qu'en partie, c'est dû au fait que ce que vous perdez d'incitation à l'entreprise que conféraient certains privilèges, parce que dans ces systèmes de privilèges, il y a un certain nombre de privilèges qui sont prévus justement en disant c'est pour favoriser l'entreprise. Mais en cassant tout le système de privilèges, certes, vous perdez un certain nombre d'incitations que vous donnez à l'entreprise, mais en même temps, à côté de ça, vous ouvrez le champ de la possibilité d'entreprendre et l'envie de travailler à des gens en les laissant beaucoup plus libres et la bride sur le coup, que grosso modo, votre économie, à l'échelle globale, elle y gagne. Vous avez peut-être des gens qui auraient fait des très gros entrepreneurs qui y perdent, ou bien des entreprises familiales qui y perdent dans la transmission, etc. Mais à côté de ça, vous avez un dynamisme qui fait que vous avez une création de richesses qui explose pour une bonne partie de la population. Celle qui, elle, était pétrie et écrasée de normes et qui ne bénéficiait pas ou très peu de privilèges. C'est comme ça, en tout cas, que je m'explique le fait que les révolutions nationales aient généralement un effet de dynamisation économique considérable après avoir procédé à des redistributions très importantes du capital, alors que, encore une fois, en bonne théorie libérale, si vous amusez à redistribuer le capital, a priori, vous n'allez pas avoir d'effet, enfin, ce n'est pas tellement ce qui est favorisé, vous voyez ça plutôt comme communiste. Mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, je rappelle que avec la Révolution, vous avez eu la suppression parmi les privilèges. Il y avait, par exemple, tout un tas de privilèges pour les, un certain nombre de pauvres, hein, qui étaient un peu les assistés sociaux, si vous voulez, des campagnes, qui bénéficiaient des communs et du droit de vin de pâture. Les communs, c'était un certain nombre de champs qui étaient propriétés collectives et sur lesquels ceux qui n'avaient pas de champs à eux pouvaient aller faire paître leurs bêtes. Et le droit de vin de pâture, c'était le, vous aviez le droit d'amener vos bêtes paître dans les champs des autres un certain nombre de jours dans l'année, etc. Ce qui était des entraves à la propriété privée de ceux chez qui vous veniez faire paître vos bêtes. Hein. Donc c'était un petit peu comme l'équivalent, si vous voulez, des cotisations d'allocations familiales qu'on vous prend pour aller les filer en RSA, etc., des gens qui ne travaillent pas. C'est l'équivalent, hein, si vous voulez. Ça existait sous l'ancien régime aussi. C'était les communs et la veine pâture. Bon. La nationalisation, donc la fin des privilèges et la suppression des communs, de la veine pâture, etc., ça a fait que les gens ont pu enclore, c'est un phénomène qu'on avait déjà observé des siècles avant, au Royaume-Uni. C'est pour ça que d'ailleurs que le Royaume-Uni a fait sa mutation capitaliste avant la France, probablement parce que vous avez des concentrations de capital qui ont été rendues possibles par le fait que les enclosures ont été rendues possibles. Les enclosures permettaient de rationaliser l'exploitation de la terre, donc d'augmenter la rentabilité de la terre, et donc de dégager du capital qui a ensuite été investi. Dans le même temps, les enclosures ont eu l'effet néfaste ou bénéfique, comme vous le voulez, de foutre littéralement à la rue des gens qui bénéficiaient de ces aides-là et qui ont été obligés d'aller travailler comme ouvriers dans les usines que le capitalisme ouvrait. Ce qui a également amené à la séparation du prolétariat, etc. Mais donc la révolution industrielle s'est fondée là-dessus. C'est fondée sur des abolitions de privilèges qui s'étaient accumulées. Et donc les révolutions, en abolissant un certain nombre de privilèges, refavorisent la recréation de richesses, et notamment pour le plus grand nombre. Hein, ça limite peut-être la capacité d'entreprendre d'une partie des gens qui pouvaient entreprendre dans le cadre des privilèges, mais ça multiplie la capacité d'entreprendre d'une bonne partie des autres. Et même quand vous avez encore une fois des systèmes qui peuvent paraître et qui sont d'ailleurs sans doute la mise en place du système collectiviste, et qui au bout de 50 ans peuvent être absolument catastrophiques, parce que la sécurité sociale telle qu'on l'a aujourd'hui, telle qu'elle pèse, tout ça, ça vient des réformes de 45, ça vient de la mise en place du système de retraite par répartition, ça vient de la mise en place de la sécurité sociale en général. Mais il n'empêche que pendant les premières décennies, ça a permis un boom. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, c'est, de toute façon, vous savez, on est des êtres humains, tout ce qui vieillit dégénère. Voilà. Et c'est vrai de n'importe quel système, si bon que vous le mettiez en place. Simplement, en général, un système jeune est plus dynamique qu'un système vieux. Et donc, je pense qu'on est à la veille de casser un vieux système. Vraisemblablement, ça sera notamment via la taxe Zucman, mais je pense que la taxe Zucman ou un équivalent, même un peu renégocié, ne sera qu'une première étape, et c'est ça qui est le signal qui, selon moi, est important, ça sera un peu comme la saisie des biens nationaux ou la suppression de la taille et le remplacement par la contribution mobilière et la contribution foncière, c'est-à-dire la première étape d'une transformation en profondeur qui, dans son ensemble, sera plus favorable, je pense, à l'économie, et qui donc sera un mal pour un bien d'une certaine façon. Donc, même si, naturellement, d'un point de vue libéral, il y a moyen de voir ça négativement, voilà, je pense qu'il faut faire un pas de côté, que là, comme dans beaucoup de domaines, encore une fois, l'historionomie permet de voir les choses différemment, de comprendre que la question idéologique est assez peu importante. Ce qui est important, c'est le mouvement, et c'est identifier le mouvement. Voilà. Et qu'il faut, encore une fois, il ne faut pas hésiter à faire face aux choses quand on s'aperçoit. Je pense encore une fois que ce que je vous disais sur cette question de logiciel, on s'est expliqué pendant des décennies que l'URSS s'est effondré parce que c'était communiste et que le libéralisme c'est mieux. Alors je n'en doute pas que le libéralisme ça fonctionne mieux que le communisme et qu'en tout cas c'est plus moral et donc ça doit fonctionner mieux. Mais je pense aussi que en réalité, il faut chercher des équations plus complexes. La réalité, c'est que l'URSS était un ancien régime, que les anciens régimes ont en réalité les tares qu'on reproche généralement au communisme, c'est-à-dire une économie très dirigée, très planifiée, avec beaucoup d'exceptions, un rôle très important de l'État, de la normativité, etc. Alors que ce qui caractérise le libéralisme, c'est qu'on y voit plutôt la marque des régimes qui sont plus jeunes, plus libres, avec pas toutes ces choses-là, Mais au fond, la question, c'est pas de savoir si un régime est libéral ou s'il est capitaliste ou s'il est communiste, c'est de savoir à quelle échelle historique il est et quel basculement historique on risque d'avoir. À mon avis, ça, c'est beaucoup plus instructif et ça permet de comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, plus et plus complètement les choses. Je pense qu'on va avoir l'occasion de beaucoup débattre de ce que j'ai dit ce soir dans le canal Telegram à l'avenir et j'en serai tout à fait ravi. Voilà ce que j'avais à dire ce soir sur le sujet. Petit rappel, n'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner si vous voulez participer à la suite, etc. On va enchaîner avec le live privé des abonnés où je vous dis, je vais répondre aux questions et faire un petit point sur mon voyage à Paris. Mais avant tout ça, Léo, est-ce qu'on a des annonces et ou des questions
Des annonces, pour l'instant, je ne crois pas. Des questions, enfin du coup non, des annonces, en fait, tu as raison, on souhaite la bienvenue à Thierry B. en tant que frère historionome.
Bienvenue.
On remercie Thomas Pariante pour son don en shekel. Et il nous dit, le coming out catho-marxiste de Philippe était annoncé par Jean Robin depuis 2018. Shana Tova à tous les historionomes, puisque l'URSSAF, pardon, puisse l'URSSAF perdre votre dossier. Bisous à Guillaume, Alban et toutes les victimes de l'IEF.
Merci.
L'IEF, pour ceux qui ne savent pas, ignoble État français. On remercie Gabriel David pour son don, avec un message clair, l'argent.
C'est bien.
Ensuite, question de Iruma. Les crimes commis par l'URSS, les meurtres politiques, les goulags, etc. Ben, en fait, t'as déjà répondu. C'est la faute de l'ancien régime, pas du communisme, pour l'interrogation.
Alors, c'est la faute de la révolution, dans un premier temps. L'ancien régime URSS, c'était plutôt l'internement. Le goulag était moins raide que sous Staline par la suite. Mais oui, c'est ça vient plutôt de ça. Et du fait aussi, disons-le, que ça fait un peu essentialisation, mais que de manière régime asiatique, la Russie était de manière générale un régime politiquement beaucoup plus rude, même sous l'Empire russe, hein, je rappelle, même sous l'Empire russe, le servage a été aboli très très tardivement au 19e siècle, hein, en Russie, donc ça a toujours été politiquement très très rude, la Russie, et donc forcément, quand dans un pays avec des mœurs politiques plus rudes, vous mettez une révolution, ben la révolution a des conséquences catastrophiques. Quand c'est dans un pays avec des mœurs politiques généralement plus douces, vous avez un truc qui passe crème. Je pense aux révolutions nationales en Scandinavie où ça s'est passé véritablement tranquille, quoi.
À la Scandinave.
Voilà.
Question chouard. Quid de Corée du Nord versus Corée du Sud ?
Alors ça, c'est une bonne question, encore une fois, je suis sûr qu'il progresse, il faut chercher. Je pense que la Corée du Sud est plus avancée que la Corée du Nord, preuve étant que pour moi, la Corée du Nord est encore en plein ancien régime, alors que la Corée du Sud vient de faire sa glorieuse révolution. Donc, à un bon demi-siècle d'avance politiquement sur la Corée du Nord. Est-ce que ça vient du fait que le Nord a plus souffert avant ça de guerre ? Est-ce que le Nord était déjà en retard au 19e siècle ? Tout ça, il faudrait que je cherche.
On a fini.
Alors, tu n'as pas cité tout le monde, je crois que tu as cité qui ? Thierry B, c'est ça ?
J'ai cité ce que m'a envoyé Iruma, mais si toi
d'accord.
Tu veux citer ceux qui sont
parce
un peu plus longtemps.
Moi, je vois, parce que je vérifie. Donc, il y a Geoffrey, Thierry B, Frédéric Rey, et je crois que. Et Colette Fanta Borelli.
Et du coup.
Les nouveaux qui sont arrivés depuis moins d'une semaine. Ça, c'est sur YouTube. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose
si
sur.
On remercie Thomas pour son don sur Tipeee. Il nous dit.
Merci.
Tu vois ce qu'il met ?
Oui.
C'est moyen. Je vais quand même le lire.
C'est moyen, mais ça me fait rire bêtement. Donc c'est...
Il nous dit, Léo a-t-il pensé à fermer le portal ?
C'est con, mais c'est bon.
Et on remercie Denis pour son don sur Tipeee. Et il nous dit, merci pour votre travail.
Merci beaucoup.
Et alors après, je ne sais pas si, quand était le dernier live, s'ils ont été lus.
Le dernier live, on l'a fait quand ? On l'a fait vendredi dernier.
Ouais, mais il y a des dons. Ils ont été lus ?
Je me souviens pas. Je pense qu'ils l'avaient été. C'était le 12, oui, c'était le 12.
Ok. Bon, en tout cas, merci à elle, si jamais. Mais voilà.
Merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui se plaint de ne pas avoir reçu d'annonce dans le live privé. Est-ce que tu peux rappeler aux gens comment ça se trouve ?
Sur Tipeee, c'est dans l'onglet News. Et sur YouTube, c'est dans l'onglet Post ou Communauté. Et je vais voir de ce pas si ça a bien été fait. Mais en tout cas, c'est là où vous le trouverez dans 1 minute 30 si c'est pas fait maintenant.
Super. Mais écoutez, merci à tous d'avoir été là. Si vous avez découvert la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la liste des essentiels en accès gratuit. Et puis, si vous en voulez plus, vous pouvez devenir compagnon, ne serait-ce que pour un mois, pour faire un tour et binge-watcher tous les essentiels de la chaîne. Vous laissez pas faire.